Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Des psaumes, livre des psaumes, et nous allons lire commenter une partie du psaume 107. Voilà. Livre des psaumes, le psaume 107, s'il vous plaît. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Le verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors, on va porter notre attention sur les angoisses en question qui ont fait crier les hommes. Et ça, c'est une vieille histoire, parce que les hommes de tous les temps, l'humanité de tous les temps a vraiment exprimé ses malheurs, ses peines, ses chagrins. Et vous avez remarqué avec moi, nous avons commencé par une exhortation tout simplement à prendre en considération les œuvres de Dieu et à le louer. Louer l'Éternel, nous avons lu, car il est bon. Alors ça, c'est quand même intéressant, puisque ça s'adresse à une catégorie de gens qui ont fait des expériences. Et quelles étaient ces expériences? Ce sont les rachetés. Ceux qui ont touché du doigt, ceux qui ont véritablement, eh bien, crié leur angoisse, exprimé leur détresse, et ils ont vu Dieu, tout simplement, à l'œuvre. Vous savez, ce psaume a été appelé le psaume aux quatre détresses. C'est ainsi qu'on le nomme dans tout simplement la classification et les intitulés que l'on a donnés parfois aux livres de la Bible ou à certains psaumes, etc. Alors, ça s'appelle le psaume des quatre détresses. Et nous allons voir quatre situations toujours actuelles qui font que les hommes sont encore encouragés à crier à Dieu pour qu'il les délivre. Et ensuite, la délivrance reçue, eh bien, de louer l'Éternel parce qu'il est bon, tout simplement. La première détresse, eh bien, elle est dans les premières lignes, au verset 4, je rappelle ceci. Il nous est dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Alors on l'a lu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. La première détresse, encore tellement présente dans notre monde et peut-être plus que jamais, eh bien, elle touche la vie de ceux dont la vie est marquée par la solitude. Voilà. C'est un problème, on pourrait dire, numéro un dans notre société. Plus les gens se rassemblent, plus ils sont seuls. Plus ils s'agglutinent dans des métropoles ou mégapoles, plus les gens se sentent véritablement, eh bien là, isolés les uns des autres. Malgré toute la technologie, malgré tous les moyens de communication, les gens meurent de solitude. Pour différentes situations, pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont été abandonnés. C'est aussi quelquefois ce que nous remarquons dans la jeunesse, avec hélas, tous ces éclatements familiaux et qui fait que, bon, bien, hein, les gens se sentent seuls par rapport également, eh bien, l'isolement que peut procurer le chômage. Quand on est seul à sa maison et qu'on n'a rien d'autre à faire, eh bien, ça, c'est quelque chose de pénible. Et que dire encore, à travers tellement de situations que nous pouvons imaginer et qui nous sont rapportées naturellement autour de nous. Donc, c'est une parole qui s'adresse à ceux qui peuvent se reconnaître parce qu'ils vivent vraiment dans une misère de solitude. L'isolement, et dont on pourrait dire l'existence est vide, se disent « Mais pourquoi j'existe ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Quel est le sens et le but à donner à mon existence ? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'affection, je ne sais pas à qui me vouer, quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous savez qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. On pourrait peut-être compter des millions, et ça c'est dramatique. Vous savez, les gens dans la solitude peuvent arriver à toutes les extrêmes. Parce que bon, ils ont besoin, et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en société, qu'il puisse constituer des relations, qu'elles soient affectives, qu'elles soient naturellement sentimentales, ou toujours sentimentales. Et puis, à travers l'amitié, à travers avec qui on peut parler. Vous savez, vous le savez aussi bien que moi, les gens peuvent écouter. Vous savez, la petite lunette là que l'on appelle la télévision, on peut écouter, on peut voir, mais on peut pas répondre. Voilà. Et ça, c'est terrible de pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer. Et on a quelquefois entendu des témoignages qui ont été donnés, et de gens qui, dans les jardins publics, comme ça, sont là en quête de pouvoir s'asseoir à côté de quelqu'un et de pouvoir tenir la conversation. Hein ? Alors, il y a bien sûr la barrière de la timidité, il y a toutes sortes de choses à qui je vais m'adresser, voilà, toutes sortes de choses qui, quelquefois, freinent encore la communication et la relation. Mais... c'est un monde miséreux, hein. C'est un monde misérable, c'est un monde de souffrance. Et il y aurait des gens qui feraient n'importe quoi pour avoir au moins une visite ou une communication dans la journée. Hein. Alors, c'est cela, hein, ce qui nous est donné. Alors donc, il nous est dit qu'ils erraient dans leur désert. Moi, je l'ai mis à cette façon, dans le désert de solitude, vous savez. Et puis le désert, c'est toujours la solitude. Hein. Parce que vous pouvez regarder à droite et à gauche, il n'y a rien. Il n'y a que... les ondulations, là, du sable à perte de vue, et puis vous ne voyez rien d'autre, hein. Et pour certains, eh bien, c'est un véritable désert. La solitude, c'est mortel. La solitude, c'est d'une tristesse pas possible. Alors, il marchait dans la solitude. C'est pourquoi, eh bien, la première détresse, peut-être numéro un dans tous les siècles, mais particulièrement aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être justement, ce désert qui n'en finit pas. Et, naturellement, beaucoup de gens cherchent à trouver une ville habitable, c'est-à-dire un lieu où ils puissent communiquer, où ils puissent se reposer, comprendre peut-être les autres et être compris, donc avoir un échange. Le terme de ville habitable, c'est quelque chose qui donne du repos à l'âme, vous savez. Quand on a fait une grande marche, quand on est très fatigué et qu'on trouve un lieu paisible, un lieu sûr, ça nous fait du bien, ça nous réconforte déjà de pouvoir accéder à cet endroit. Sans trouver une ville où ils puissent habiter, alors ils souffraient de la faim et de la soif. Hein. Ah, n'est pas de n'importe quelle nature cette faim et cette soif. C'est d'avoir un vis-à-vis, c'est d'avoir des amis, c'est d'avoir quelqu'un avec lequel eh bien, on puisse peut-être décharger ses peines et puis partager ses joies, parce que c'est ça aussi, hein, la communication et la relation, la communion avec quelqu'un, c'est de dire tout. Voilà, et peut-être même en faire des amis. Hein, et je crois que aujourd'hui, ce sont des produits rares quand même. Hein. Parce que les gens sont tellement fugitifs, ils passent, ils sont là, ils vous croisent, ils ne vous voient pas. Et ça, ça fait, vous savez, quelquefois, de ne pas pouvoir s'arrêter pour dire bonjour. Alors, on ne dit pas bonjour à tout le monde, hein, parce que si vous êtes dans le métro, vous n'avez pas fini. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que, regardez, même les gens dans les immeubles et dans les lieux communs se disent même pas bonjour. Hein. Alors, on essaie de faire un effort, hein, quand même, pour quand on croise quelqu'un dans l'escalier, on lui dit bonjour, comment ça va ? Hein, on a matière à discuter, en ce moment, la météo est là pour nous aider. Hein. Mais quand même, c'est terrible cela, hein. Terrible. Et de pouvoir, finalement, tu rentres chez toi, tu te refermes ta porte, et puis tu es encore tout seul. Ça, c'est vraiment un mal terrible. Et pourtant, Jésus nous en parle. Hein. Il avait vu cette grande solitude lorsqu'il prêchait sur les monts de Galilée, et qu'il voyait cette nation, ce peuple... qui était là aéré de droite et de gauche, parce qu'il n'avait pas de berger, parce qu'il n'y avait pas de raison, finalement, eh bien, de pouvoir... et encore, dans ces temps-là, il y avait une communication entre les gens. Hein, les gens vivaient dans les villages, ils vivaient dans des petites agglomérations, hein, et les communautés étaient très, très fermées, hein, très serrées, alors on se connaissait tous. Mais aujourd'hui, hein, vous savez, quand on va, et si on s'établit sur Paris, vous allez voir beaucoup de monde, hein. Mais au niveau de la communication dans les grandes villes, c'est terrible. Hein. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et Jésus le savait bien déjà. Hein, quand il voyait ces gens qui étaient languissants. Et il nous est dit que Jésus a été touché de compassion. quand il a vu ce monde, cette errance, vagabondage, sans pouvoir véritablement faire des liens, parce qu'il leur manquait vraiment l'essentiel à tous ces gens, qui étaient quand même des hommes et des femmes du peuple d'Israël, où il y avait encore des liens, je l'ai dit il y a un instant, très forts. Mais il leur manquait l'essentiel, parce que on peut avoir une relation horizontale, mais elle, pour qu'elle puisse vraiment toucher son sens, avoir tout son sens, faut qu'elle soit aussi verticale, parce que c'est Dieu qui nous donne de connaître, eh bien, d'autres personnes. Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui si nous n'avions pas la communion fraternelle? Si nous n'avions pas la connaissance de frères et de sœurs, d'hommes et de femmes que nous ne connaissions pas auparavant, hein. Moi, je vous connaissais pas, vous me connaissez pas, puis on a appris à se connaître. Et puis finalement, eh bien, il faut le dire, on est heureux de se rencontrer, on est heureux de se retrouver. Et ça, je pense que c'est grâce à Dieu, hein. Donc il y a toujours cette communication de bas en haut, puis dans l'autre sens, et puis également à l'horizontale. Parce que, qu'est-ce que nous aurions fait cet après-midi? Voilà. On aurait regardé, on aurait attendu les résultats des élections. En entendant en boucle, voilà, ceci et cela, etc., etc. Mais vous savez que là, on est ensemble, hein. Mais il y a des gens qui se morfondent dans leur maison, hein. Alors bon, si on a encore peut-être la possibilité de faire de la lecture, enfin toutes sortes de choses, parce qu'il faut se donner des moyens, hein. C'est vrai, hein, il ne faut pas rester là à mourir sur place, à mourir sur pied, comme l'on dit. Mais il y a des gens qui ne savent pas, ils n'ont pas, voilà, c'est ça, et ce sont des gens qui sont très malheureux, hein. Voilà, on tue le temps. Et on essaie de noyer notre misère de solitude par toutes sortes de choses. Alors, il y a des bonnes choses, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais il y a des choses, quelquefois, qui sont profondément mauvaises. Et on s'intoxique, on s'empoisonne avec tout cela. Alors, pour tous ceux qui sont empoisonnés par la solitude, par l'isolement, ceux qui, finalement, eh bien, ressentent un immense vide de relations humaines, Jésus nous parle de sa présence. Vous savez, il nous le dira, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous l'affirme tous les jours. Et on peut y ajouter les nuits. On peut y ajouter chaque instant. Le Seigneur est là. Alors, cette parole, il faut la saisir par la foi, hein. Parce que on ne peut pas s'attendre à autre chose. Mais on le ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Cette chaleur, cette bonté, cette fidélité, cette grâce qui nous est donnée de dire, eh bien, quand on passe par les moments les plus sombres de la solitude, de dire, mais Seigneur, je crois que tu es là. Et ne pas laisser l'adversaire en disant, regarde, t'es tout seul, tu vas mourir tout seul. Non, ça, il faut se défendre. Et en sachant que nous avons des promesses. Et combien dans l'Ancien Testament, je pense au prophète Ésaïe, où Dieu parle à travers Ésaïe pour les justes d'Israël, où Dieu s'exprime en disant, mais tu es à moi, je te connais par ton nom, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis près de toi, ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que je suis là pour te sauver. Et je suis là pour, t'accompagner tous les jours. Nous avons notre plus vieille personne parmi nous. Vous connaissez, je ne vais pas citer son nom. Mais elle m'a souvent dit, quand je faisais des visites, « Est-ce que vous ennuyez ?» Elle me répondait, « Je m'ennuie jamais. Je ne suis pas seul. » Hein, vous vous souvenez, parce que vous l'avez visité aussi, hein. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que bon, elle est vraiment très, très, très âgée. Mais, voilà, elle se plaisait, elle me dit, mais, et déjà, quand on connaît son témoignage, depuis sa petite enfance, elle était seule, hein. Et elle a vécu dans la solitude, et avec des problèmes par-dessus la tête, hein. Mais, elle dit, non, je m'ennuie jamais. Puis alors, elle ajoute toujours, mais j'ai le Seigneur avec moi, hein. Alors, peut-être que nous avons besoin de prendre des leçons de nos anciens, de nos aînés, et de pouvoir sortir parfois du maras. Et puis alors, n'écoutez pas la voix de l'ennemi qui vous dit « Ah oui, t'es vraiment tout seul. Ah là là, c'est terrible. » Non, non, le Seigneur nous a fait la promesse de sa présence. Et elle est belle, la présence, elle est bonne, la présence du Seigneur. Donc, ça s'adresse, cette première partie, la vie de ceux qui sont marqués donc par l'isolement, qui vivent le vide ou le sentiment d'un grand vide dans leur existence. Et puis, il y a une deuxième proposition, une deuxième réponse à une autre détresse qui est aussi pleine d'actualité. Je poursuis, verset 10. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Il s'agit ici d'une parole de réconfort, de soutien, d'encouragement de ceux dont la vie est privée d'espérance. Oui. Et pour une raison particulière. Privés d'espérance parce qu'ils sont privés de lumière. Et on a bien relevé les mots. Ténèbres, ombre de la mort, captifs, misère, les chaînes, qui évoquent eh bien, ceux qui se sont renfermés dans les prisons, qui se sont renfermés dans des captivités morales, à caractère moral particulièrement. Alors, ils connaissent aussi la solitude, ces gens-là. Mais on a vu les raisons pourquoi ils sont arrivés à ce point, parce qu'ils ont méprisé, nous dit le texte, le conseil du Très-Haut, parce que finalement, eh bien, ils ont peut-être dit, comme beaucoup, « Dieu n'existe pas ». Eh bien, c'est précisément, justement, quand là, on traverse, on connaît des détresses et des angoisses, qu'il faut affirmer que Dieu existe. Et il nous le montrera. Et il nous le prouve. Et c'est vrai que des gens qui sont privés d'espérance, ou alors, mais de véritable expérience, parce qu'il y a une espérance humaine, si nous mettons notre confiance et que nous espérons uniquement dans les choses de cette vie, ou dans les hommes et leurs moyens, alors c'est vrai que quelquefois, il y a de bonnes choses, mais quelquefois, il y a de quoi désespérer, vous savez, parce que les hommes nous font attendre. Hein. Sinon, quelquefois, ils ne sont jamais au rendez-vous. Et c'est un petit peu ce que certains vivent. Ils ont mis tout leur espoir dans les capacités humaines. Ils ne comptent que sur l'homme. Vous savez, on entend de belles promesses en ce moment. Hein. Mais qu'en restera-t-il, finalement, dans la pratique? Et pour le bien des hommes. Alors, c'est vrai que nous avons besoin de regarder un peu plus haut, un peu plus loin, et de savoir qu'il y en a un qui dit et qui ne ment pas. Il y en a un qui tient parole à ce qu'il nous promet. Et je pense que c'est important de le dire, parce que dans un monde qui se déchristianise, dans un monde où il y a tant de désaffection de la foi, je pense que tant que nous regarderons autour de nous et à nos pieds, vers la terre, eh bien on sera toujours déçus. Or, dans la Bible, dans le livre des Actes, il nous est dit que celui qui met sa confiance en moi ne sera jamais déçu ni confus. Et ça, c'est Dieu qui parle. À travers Jésus-Christ, à travers Jésus, puisqu'il nous indique qu'il est le chemin. Et parce qu'il est la vérité, eh bien il ne va pas nous démentir ce qu'il affirme, et ses promesses restent certaines. Alors, ces gens qui manquent de lumière, ils se donnent toutes sortes d'espérances dans des lumières artificielles. Notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde moderne, eh bien, on s'aperçoit que s'il n'y a pas la véritable lumière, ils se donnent des lumières de la terre. La science, la pensée, toutes sortes de choses semblables à la philosophie et toutes sortes de conceptions humanistes pour se dire, eh bien, on est sur la terre, eh bien, on va faire quelque chose naturellement. Bon. En soi, on pourrait dire que l'homme cherche, mais va-t-il trouver et va-t-il être satisfait? Parce que c'est ça le gros problème. Manquer de lumière. Et une chose qui est certaine, c'est que Jésus nous a dit qu'il était la lumière du monde, hein. Et il nous a même fait la promesse que si nous le prenions comme la lampe, que nous mettons et sa parole, lui et sa parole, à nos pieds et sur notre sentier, alors à ce moment-là, nous pourrions marcher dans les ténèbres et nous pourrions nous égarer. Et nous voyons que dans cette proposition qui nous est faite, eh bien, il est question de ceux qui demeurent, ceux qui restent, ceux qui ne bougent pas, ceux qui sont dans un état passif et qui sont profondément malheureux, l'ombre de la mort. C'est-à-dire que leur vie n'est pas le terme qu'il faudrait employer, mais c'est plutôt le mot d'existence, et peut-être y mettre un adjectif, médiocrité. Il y a des gens qui tournent comme ça, dans une petite vie, un petit univers à eux, et il n'y a pas d'autre perspective que leur environnement immédiat, il n'y a pas d'autre chose. Alors ils vivent captifs, ils se sont rendus captifs, nous-il dit, dans cette misère et dans les chaînes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est question de prison, parce qu'ils se sont emprisonnés eux-mêmes, parce qu'ils se sont révoltés. Ouais, ils se sont révoltés pas contre les hommes, ou peut-être contre les hommes, mais ils se sont révoltés contre Dieu. Que de révolte dans notre monde aujourd'hui, hein. Ah, les manifestations en font foi, hein. D'une manière ou d'une autre, on se révolte, on manifeste parce qu'on n'est jamais content. Et on sera perpétuellement dans cet état tant qu'on n'aura pas pris conscience que celui qui est le lien, celui qui est la paix, celui qui est la réconciliation, celui qui peut nous donner par sa présence eh bien, de combler notre solitude, mais avec son amour, à ce moment-là, eh bien, c'est lui qui peut nous délivrer, faire tomber nos chaînes, contre les paroles de Dieu. Des gens, lorsque nous ouvrons la Bible ou lorsque nous parlons de Jésus-Christ, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ça n'a ni queue ni tête, c'est... » Ben oui, pour celui qui ne croit pas, c'est sûr que c'est peut-être difficile d'accéder à la compréhension et puis à l'acceptation de ces choses. Mais faut-il passer par la détresse ? Et faut-il commencer à connaître des angoisses pour qu'ensuite il nous ait dit « Eh bien, à ce moment-là, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et c'est Dieu qui leur a répondu. Ouais. Et j'aime bien cette parole qui est écrite dans le Nouveau Testament quand il est dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Ouais. Eh oui, mais il suffit de crier, comme nous l'avons entendu dans ce beau témoignage dernièrement de la personne qui s'est engagée pour le Seigneur Jésus, quand elle est rentrée dans cette église, apprenant qu'elle avait un cancer et qu'elle est rentrée dans la colère, et qu'elle dit « Seigneur, si tu existes, tu me trouves, que tu existes, alors tu me guéris. » Et la réponse a été donnée quelques jours après. Et elle est parmi nous aujourd'hui vivante parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quelquefois, il peut y avoir une scène des cris qui sont saints et qui peuvent nous amener à sortir de nos prisons, parce que quand on est enfermé, on ne peut plus s'en sortir. Alors, ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, et ils avaient méprisé finalement, eh bien, même, non seulement le conseil du Très-Haut, mais aussi sa vie. Alors, Dieu permet que, à nos propres sottises et à nos propres fautes à ce moment-là, eh bien, notre cœur soit humilié. Et dans l'humiliation, peut-être que nous sommes beaucoup plus sensibles à entendre Dieu nous parler. Parce que quand tout va bien, on peut s'en passer. Alors, il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort en reprenant les mêmes mots que précédemment. Et il a rompu les liens et il leur a montré les merveilles en faveur du Fils de l'homme. Il nous a même précisé qu'il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Oui, parce que ce qui nous résiste à nous, ça ne résiste pas à Dieu. Et là où nous disons peut-être, eh bien je m'en sortirai pas, c'est fini pour moi, je suis privé d'espérance, je n'ai pas de lumière, je suis en prison et en captivité, eh bien le Seigneur est capable de nous en faire sortir. À ce propos, vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Paul lorsqu'il était dans la prison de Philippe ? Il est sorti de la prison là. Hein ? Bon, il y était non pas parce qu'il était condamnable, mais parce qu'il était juste. Et c'est à cause de sa justice et son amour de la vérité qu'il était mis en prison. Et puis il y a le geôlier de la prison de Philippe. Vous savez ce qu'il a demandé quand il a vu que les choses tournaient mal, à la fois pour la responsabilité qui était la sienne de garder les prisonniers parce que le tremblement de terre avait tout fait voler en éclats. Et vous savez la première chose qu'il a demandé ? De la lumière. Eh bien, il a eu la lumière. Parce qu'il a cru à ce moment-là au témoignage de l'apôtre Paul et ça l'a amené finalement à s'engager pour Dieu, à se faire baptiser le jour même, le soir même. Et on peut dire... Eh bien, qu'il loue l'Éternel pour les merveilles en faveur de ceux qui croient en lui. Parce que le Seigneur fait les grandes choses. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. Il a ouvert la porte de nos prisons. Eh bien, il nous a amenés à la lumière, à sa lumière à lui. Et il nous a donné une espérance, celle que nous ne connaissions pas auparavant. Troisième détresse dont il nous est parlé dans ce psaume, ce beau psaume. Alors, on le trouve tout simplement à travers ces mots. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et toujours le même refrain, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et il les guérit et les fit échapper de la fosse. On a parlé de la solitude, de cette terrible misère qu'est l'isolement, la solitude. On a parlé de la privation de lumière et d'espérance. Et voilà que dans cette proposition qui nous est faite, eh bien, ça s'adresse à ceux dont la vie est détruite par la culpabilité de leurs propres erreurs et de leurs fautes et de leurs mauvais choix. Écoutez, on le retrouve, les insensés. Celui qui ne pense pas, celui qui ne réfléchit pas, qui ne se met pas à la réflexion des conséquences. Soit de paroles ou d'actions ou d'actes ou je ne sais quoi, de réactions peut-être. Les insensés par leur conduite coupable. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par leurs iniquités, c'est-à-dire l'injustice, la méchanceté, toutes sortes de choses, tout ce qui est et tout ce qui peut émaner du cœur humain, en passant par la haine, par toutes sortes de choses, l'égoïsme et tout cela, par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. Ils auraient pu être heureux, mais parce qu'ils sont insensés, parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre les vertus du bien et puis les catastrophes du mal, Alors à ce moment-là, ils ont fait n'importe quoi, tout simplement. Ils ont fait des mauvais choix. Et qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences? C'est que leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Parce qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas ingurgiter, on ne peut pas finalement prendre du poison sans que ce poison, à un moment ou à un autre, eh bien, fasse son effet. Les bonnes choses nous font vivre et les mauvaises nous font mourir. Et c'est ce qui se passe. Et combien dans notre monde aujourd'hui, des gens ont cassé leur vie, ont brisé leur carrière, ont brisé leur trajectoire parce qu'ils ont été insensés. On pourrait dire qu'ils ont été insensés parce qu'ils ne savaient pas. Mais on sait toujours quand même où se situent les contours du bien et du mal. Mais ils ont préféré le mal. Alors, on s'aperçoit qu'à un moment donné, eh bien, ils en ont eu les conséquences. Alors on pourrait parler peut-être de toutes les addictions qui sont si fréquentes dans notre monde, peut-être pour oublier la misère et la détresse, telles que l'alcool, la drogue, telles que toutes sortes de déviances, toutes sortes de choses, mais qui à un moment donné, il faut s'y attendre, à tel point que le mal et le péché, appelons les choses par leur nom, ont tellement gâché, détruit, tellement vicié leur atmosphère intérieure, qu'ils ont en horreur, finalement, de vivre. Ils ont un dégoût de vivre. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Vous savez, quand on se prête au mal, eh bien, ça peut nous emmener beaucoup plus loin qu'on le pense. On se dit, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup qui font cela, mais vous savez, ce qui commence quelquefois par la main, ça passe au coude, et puis ça va jusqu'à l'épaule, et ça vous emporte complètement. Et les gens se retrouvent, on peut dire, véritablement dans la solitude, y compris la solitude, y compris dans la prison comme dans la deuxième proposition, et dans le troisième plan, c'est-à-dire en avoir un dégoût et un rejet de la vie. Vous savez pourquoi les gens se suicident, hein ? Alors ça peut être, comme nous l'avons dit, le désamour, d'être mal aimé, d'être rejeté, d'être maltraité, d'être toutes sortes de choses. Ça peut être ça. Mais le trop-plein de mal, le trop-plein de folie, le trop-plein de cette vie qui nous est proposée comme si tout était formidable et beau, et quand on est pris au piège, à ce moment-là, on ne peut plus s'en sortir, à tel point que on en a la nausée. Leur âme, nous est-il dit, avait en horreur toute nourriture, et ils étaient juste à deux doigts de mourir. Vous savez, c'est notre société aujourd'hui, mais ça devait être probablement la société qui peut être celle du psalmiste, hein, il y a très 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 longtemps. Alors, quelle destruction. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que, comme dans les deux fois précédentes, l'homme voit toujours peut-être une petite lumière dans son malheur et dans sa misère. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et vous savez ce que Dieu fait à ce moment-là ? Il fait ce que nous faisons cet après-midi. Il leur envoya sa parole et il les guérit. Dieu n'est pas un Dieu de jugement, c'est un Dieu de miséricorde pour tous ceux qui invoquent son nom. Et le fait de l'invoquer, le fait d'invoquer son nom, c'est déjà la marque que nous croyons qu'il existe. Alors s'il existe, il va beaucoup plus loin. Il va faire. Eh oui, il va faire. Alors il envoya sa parole et il les guérit. C'est ce que nous partageons cet après-midi. À chaque fois que vous rendez témoignage, à chaque fois qu'un prédicateur ouvre le message de l'Évangile, eh bien c'est Dieu qui envoie sa parole pour guérir les hommes. C'est ça, hein? Et ça, c'est certainement une des plus belles paroles que nous avons, parmi tant d'autres belles paroles, dans la Bible. Il envoya sa parole, et il les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Aujourd'hui, où serions-nous? Par-delà notre solitude qui nous a tués, par-delà ou qui nous tue, par-delà peut-être nos prisons avec des verrous de fer, où serions-nous si nous n'avions pas entendu la parole? Eh bien, peut-être que nous serions dans la fosse, hein? Parce que Dieu est venu nous chercher et nous donner une formidable espérance qui nous a fait vivre jusqu'à maintenant. Et heureusement, hein, heureusement. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alors qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Est-ce que nous pourrions nous taire devant ce que Dieu a fait? Non, c'est pas possible. Vous savez, ne serait-ce que lorsque nous introduisons une réunion, on pourrait peut-être appeler ça une tradition, mais je ne veux pas y voir seulement une tradition. Mais quand nous chantons les cantiques, hein, les petits chœurs que nous chantons, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on exprime tous ensemble, d'une même voix, finalement les louanges et l'adoration à Dieu. Hein. Et nous disons, mais Seigneur, parce que je suppose que quand vous chantez, vous, quand même, vous connaissez les paroles, vous vivez les paroles. C'est important, hein? Oui, c'est important. ce que nous vivons véritablement et nous remercions le Seigneur. Et puis, dernier point sur lequel nous voulons marquer quand même un mot, dire un mot, quatrième détresse de ce beau psaume 107. À partir du verset 23, il est dit ceci: « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fait souffler la tempête, il souleva les flots de la mer, il montait vers les cieux et descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. » Il s'agit, et c'est à l'adresse de ceux dont la vie est tourmentée. On peut être déjà tourmenté par les trois premières évocations. Mais là, c'est bien marqué. Les gens dont la vie est tourmentée, dont la vie se caractérise par l'instabilité, comme sur un pont d'un navire en tempête. Hein? Ceux qui sont sans repère ni but dans l'existence, ça revient à la deuxième proposition, sans espérance. Ceux qui ont la nausée, on en a parlé pour la troisième proposition. Oui. Alors, ils sont partis, ils sont descendus sur la mer dans des navires, ils ont travaillé sur les grandes eaux. Ça peut recouvrir toutes sortes de choses. On a fait tellement de choses dans la vie. On peut faire tellement de choses. Les grandes eaux de la vie, les grandes eaux des occupations humaines, bonnes et mauvaises d'une façon ou d'une autre. Alors ils ont vu les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme, alors que finalement ils étaient prêts peut-être à y perdre la vie dans cet océan et dans cette nuit. Alors à ce moment-là, eh bien, ils se sont aperçus que ils ont véritablement vu la main de Dieu pour les secourir. On se souvient de notre ami Victor, qui a été capitaine au long cours, commandant de bateau, qui nous raconte quelquefois ses histoires quand il était au milieu de l'océan en pleine tempête. Des hommes, ses matelots et tous ceux qui, dans l'équipage, étaient des hommes qui juraient, qui proféraient contre Dieu. Le jour où ils ont failli passer par-dessus Bordeaux trois fois, ils se sont tous mis à genoux, ils ont tous crié à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont encore vivants aujourd'hui. Hey. Alors priez, prions, demandons à Dieu quand nous avons des problèmes, parce qu'il écoute, hein, le Seigneur. Et c'est vrai que il n'y a rien de plus insécurisant. Quand on est sur la terre ferme, on peut toujours se débrouiller à se raccrocher à quelque chose, si l'on peut. Mais quand on est sur un bateau, coquille de noix ou paquebot, quand vous êtes, vous regardez à droite et à gauche, vous avez que l'horizon, vous dites, et puis il y a le fond, après. Hein. Regardez ces pauvres gens du Titanic, hein. Quelque chose, hein. Et en pleine nuit en plus, alors ça doit augmenter la panique et le drame, hein. Et ça c'est la folie des hommes, hein. Faire naviguer un bateau à pleine vapeur alors qu'il était conseillé de faire attention puisqu'il y avait des icebergs qui étaient en dérive, hein. Oh ben ils n'ont pas raté l'obstacle, hein. Ils sont allés, et c'est terrible, hein. C'est terrible avec les conséquences, hein. Terrible de conséquences que cela a été. Alors on se sent véritablement quelquefois dans certaines circonstances complètement insécurisé, on ne sait plus, on est perdu. Eh bien justement, c'est quand on est perdu qu'on peut crier à Dieu. Ouais, tant qu'on ne sent pas qu'on est perdu, on n'a pas besoin de Dieu. Et ça c'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan moral, mais c'est vrai sur le plan matériel, sur le plan de la vie. Alors à ce moment-là, il nous est dit qu'il a fait souffler la tempête, et il a soulevé les flots de la mer, pour nous montrer que il y a quelquefois la volonté permissive de Dieu, non pas pour nous perdre, mais pour nous sauver, à travers des impressions que nous allons être perdus, et que nous sommes réellement perdus. Et ce vent qui vient, les vents contraires de notre vie, de notre existence, et c'est ce qui se passe. Et on est soulevé par les flots de la mer, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus rien, on ne pilote plus rien, on n'a aucun contrôle. Et c'est Dieu qui a le contrôle de notre vie quand nous mettons notre espérance en lui. Alors il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Si vous aimez les montagnes russes, c'est le moment où vous pouvez en profiter. Hein? Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était perdue. Ça, c'est l'image, je le répète à dessein, l'image de l'homme dont la vie est tourmentée. Et il y a de quoi être tourmenté. À travers peut-être les relations que nous pouvons avoir avec les autres, avec notre propre vie, nos pensées qui peuvent nous persécuter, nos obsessions, à travers toutes sortes de choses qui sont là pour nous agiter à l'intérieur. Ça se voit pas comme ça extérieurement, mais il y a probablement autour de nous des gens que nous rencontrons, que nous croisons, des gens qui sont en tempête à l'intérieur d'eux-mêmes, soit la tempête de la haine, de la colère, du ressentiment à travers toutes sortes de choses, parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils veulent prendre une revanche, parce qu'ils veulent finalement quelque chose dont ils pensent maîtriser et vaincre. Alors, ça c'est l'image, vous savez, on monte, on descend, et puis on va de droite et de gauche, les vies tourmentées, il y en a beaucoup, hein. Regardez tous les gens qui sont en soins psychiatriques, tous ces gens qui sont en soins sans être dans un établissement, mais sous camisole médicamenteuse parce qu'ils ne trouvent pas la paix, ils ne trouvent pas le repos, jour et nuit, ils sont tourmentés. Ouais, ça c'est le pont du bateau, hein. Le pont du bateau qui finalement essaie de se frayer un chemin dans l'ouragan, c'est terrible. Ils sont saisis de vertige. C'est terrible le vertige. Hein. Et il chancelle, comme quelqu'un qui serait ivre. Mais ce n'est pas de l'ivresse, comme on l'entend. C'est une ivresse de malheur. C'est une ivresse d'inquiétude. C'est une ivresse de soucis. C'est une ivresse d'anxiété. Les gens sont ivres de tout cela. Alors on leur donne des médicaments, ils se calment un petit peu. Et puis bon, une fois que l'effet est fini, il faut recommencer. Parce que le problème n'est pas solutionné. Le problème, il n'est pas à l'extérieur, même si nous voyons que tout bouge sur ce bateau. Mais le problème, il est à l'intérieur. C'est pourquoi il nous est dit, mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous avez 4 fois cette phrase qui revient dans ce psaume. Ils crièrent à l'Éternel leur détresse et il leur délivra de leurs angoisses. Et c'est ça justement la force. Alors les vies tourmentées, les vies qui sont instables, on va dans un sens, on va dans un autre. Parce que pour bien vivre, il faut quand même trouver quand même quelques marques, hein, vous comprenez? Et dans cette société qui est une société sans principe, enfin qui glisse vers la moralité, pas l'immoralité, non mais la moralité c'est déjà la porte, hein, qui glisse vers le rejet de tout principe, de où on bannit tout repère, alors on comprend que les gens n'ont pas de but. Nous vivons pourquoi? Nous travaillons pourquoi? Nous faisons ceci et tout cela pourquoi? Quand vous avez trop de choses comme cela, eh bien ça ne passe plus, hein, et on en arrive à la nausée, c'est ce qu'il est dit. Saisis de vertige, ils chancelaient. Et malgré leur habileté, parce que on peut être un bon vivant, on peut être quelqu'un qui a, on pourrait dire, le pied marin dans l'histoire de notre vie, de notre existence sur la Terre, et bien malgré ça, il y en a certains qui se sont fait forts et qui n'y arrivent pas. Hein. J'ai eu l'occasion, on m'a offert une lampe dernièrement, et elle ne marche pas. Une lampe, elle ne marche pas. Et on a essayé de trouver des solutions parce que j'ai quand même des amis ingénieurs. Ingénieurs, ils sont pas ingénieurs en diplôme, hein, ils sont ingénieurs parce qu'ils ont de la... Parce que moi, je sais pas faire. Et j'ai fait venir Ergus, alors lui, il est... Problème. Mon autre gendre, on a regardé ça, on a bricolé, etc. J'en ai fait venir un autre, il m'a dit, mais c'est une lampe à huile, à pétrole, et on a mis un brûleur gaz. Heureusement que ça n'a pas explosé, hein, parce que j'aurais plus de cheveux sur la tête aujourd'hui. Alors on a retourné, j'ai dit à ma fille, tu retournes, parce que c'est pas ici, mais tu retournes chez le vendeur et tu lui demandes qu'il nous donne au moins un instrument, quelque chose qui fonctionne. Alors, assez entendu dire, vous savez madame, vous pouvez me la ramener, votre lampe, rien ne me résiste. Elle est partie, on va voir s'il me la renvoie. Alors c'est pour ça, hein, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont sur deux, on va voir. Alors j'espère qu'il va pas me mettre, je sais pas moi, une pile atomique dedans et puis que... On verra bien. Mais peu importe, ça c'est les petits détails. Mais c'est pour dire qu'il y en a qui manquent pas de souffle. Hein. Dans leur habilité, il nous est simplement rappelé, eh bien, toute leur habilité est anéantie. L'homme se croit fort parce qu'il se dit, finalement, rien ne va me résister. C'est parler peut-être un peu vite. Hein. Alors il a délivré de leurs angoisses. Alors il arrêta la tempête parce que c'est Dieu qui déclenche la tempête et c'est lui qui l'arrête. Et si nous sommes quelquefois dans les moments difficiles, sachez que s'il y a une volonté permissive de Dieu de déclencher une tempête, eh bien, regardez plutôt à lui, parce qu'il est capable de l'arrêter. Vous savez, comme la pluie d'Élie, hein. La pluie ne descend pas et la pluie après revient, tout simplement. Alors il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Ah, les ondes et le calme, c'est surtout à l'intérieur, hein. Oh, même s'il y a du vent et du tourbillon d'extérieur, c'est pas grave. Et c'est surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré, puisque je vous ai dit qu'ils n'ont plus de but et de repère. Ben Dieu nous conduit au port désiré. Et ça, c'est un beau message que nous avons dans le psaume 107. Parce que si nous ne savons pas toujours où nous allons à traverser le désert de la solitude ou autre désert, eh bien, il sait nous trouver une ville habitable. Si nous sommes dans des prisons et des cachots obscurs, ténébreux, et dans les chaînes, il est capable de briser tout ça et de nous donner la liberté. Si, finalement, eh bien, nous sommes dans la culpabilité, dans les fautes que nous avons commises, parce que nous avons commis des fautes et que nous vivons dans la culpabilité, eh bien, nous avons le pardon de Dieu. Et lui est capable, si nous confessons nos péchés et que nous lui déchargeons toute notre misère, il est capable, finalement, de nous délivrer de cette culpabilité, parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de pardon. Et puis, finalement, si notre âme a été tellement bousculée, tourmentée, agitée de droite et de gauche, eh bien, il nous conduira au port désiré, où là, il n'y aura pas de tempête, où il n'y a plus de tempête, mais nous serons en paix et en sérénité devant celui que nous avons, dont nous avons invoqué le nom et qui nous délivre de notre détresse et qui nous libère de nos angoisses. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est belle. Ta parole, elle donne des messages aux désespérés. Elle nous communique, Seigneur, en effet, eh bien, cette lumière qui apparaît, Seigneur, souvent dans nos nuits les plus obscures, sur les océans, Seigneur, les plus agités, dans nos prisons, Seigneur, les plus profondes, et dans nos vastes déserts, où véritablement, Seigneur, nous nous perdons dans tous les horizons, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier, notre Père Céleste, parce que nous pouvons dire, à juste titre, que tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Et je crois que cet après-midi, tu envoies encore ta parole, d'une manière très simple, à travers la prédication, à travers ce que nous partageons maintenant. Et parce que tu as envoyé ta parole, eh bien, nous, notre part, c'est non seulement de l'entendre, mais de la croire, c'est-à-dire d'y ajouter foi, Seigneur. Et parce qu'il y a la foi dans le cœur de ces hommes, comme nous l'avons lu, eh bien, nous pouvons crier notre détresse. Et c'est toi qui as apaisé nos angoisses, et tu nous as guéris. Seigneur, guéris-nous de nos peurs, guéris-nous de nos solitudes, guéris-nous de nos craintes, guéris-nous, Seigneur, de nos enfermements, de notre culpabilité, guéris-nous, Seigneur, là, en effet, de notre manque de lumière, parce que tu es lumière et tu te prêtes à nous éclairer. Et puis, guéris-nous, Seigneur, lorsque nous sommes sur un pont de navire en tempête et que nous avons la nausée, que nous avons la nausée de vivre, que nous avons la nausée, Seigneur, en effet, Père éternel, à cause de tout ce qui se passe, d'agiter autour de nous. Eh bien, c'est toi qui nous amène au calme. C'est toi qui nous fais rentrer dans le port désiré. Et là, nous y trouvons la paix de Dieu. La paix de notre conscience, la paix dans nos âmes, la paix dans notre esprit. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu as envoyé ta parole. Et maintenant, je te demande de faire ton œuvre auprès de ceux et de celles qui vont ouvrir ce texte dans la Bible, qui vont écouter ce texte, qui l'écouteront. Eh bien, bénis-les et visite-les. Alors à ce moment-là, ils pourront dire « Je loue l'Éternel à cause de ses merveilles ». Et à cause de sa bonté. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.